Bah, totalement ce défi de repartir d'un accident et de finalement repartir avec une nouvelle enveloppe charnelle, puisque voilà, je suis mutilé d'un bout de mon corps, et cette envie complètement folle de croquer la vie à pleines dents et de me dire que je suis pas encore bon à mettre à la poubelle, et je veux un challenge à la hauteur de ce qui vient de m'arriver. Donc voilà, je cherchais un sport difficile pour repartir sur des bases difficiles, et je pense que j'ai choisi et j'ai trouvé ce à quoi je m'attendais, le triathlon, quoi.
Exécuté par qui ? Fabrice Florent.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous. Je suis très fier de recevoir aujourd'hui dans Histoire de Mec Alexis Anquincan, qui roule littéralement sur toute la discipline du paratriathlon depuis 2017. Alexis est l'un des plus beaux espoirs de médaille pour la France aux JO Paralympiques de Paris cet été. Dans cet épisode, il nous raconte comment il a dépassé cet accident en 2010 qui lui aura coûté la jambe pour devenir tout simplement le meilleur athlète au monde de sa discipline. Je voudrais également remercier chaleureusement Gillette, qui est la marque officielle de rasoir des JO de Paris 2024. Merci donc à Gillette, grâce à qui cette rencontre a pu avoir lieu, et merci aussi pour le soutien à Histoire de Mec. Alexis, bienvenue.
Merci.
J'étais en train de te briefer un petit peu sur le podcast, et je te disais, la première question que je pose à tous mes invités, c'est quoi pour toi être un homme ? Et je t'ai vu faire un regard un peu inspiré vers le lointain, là, comme ça. Je me suis dit, ah, ça y est, il est parti, il faut que j'enregistre.
C'est ça. Et du coup, je vais pas répondre à ta question.
Vas-y, avec grand plaisir, ouais.
Non, c'est quoi être un homme ? Alors, je vais surtout vouloir rassurer tout le monde en disant que je suis pas quelqu'un de macho, hein. Mais forcément, le fait de parler de masculinité, c'est pas évident. voilà, ça peut avoir un petit rapport avec le côté un peu machiste, etc.
Grave.
Donc,
ouais.
Donc voilà, aucun problème là-dessus. Pour moi, les valeurs d'un homme, c'est vraiment le côté combatif, le côté rassurant. Pour une femme, je pense. Le côté.
Et pour ses enfants.
Pour ses enfants, voilà, c'est ça, c'est
pas...
ça, c'est ce que j'allais dire.
On
le côté
parler,
un peu aussi protecteur d'être papa, et finalement d'avoir ce rôle un peu de chef de famille, entre guillemets, même si encore une fois la femme a toute sa place dans ce rôle-là, quoi.
C'est un truc, c'est un peu à l'ancienne, ce truc de chef de famille, mais c'est vrai que
Oui, c'est à l'ancienne, mais je pense que voilà, ça fait partie un peu de l'éducation moi que j'ai reçue, et c'est un rôle que j'ai pris naturellement, en fait, parce que j'ai vraiment envie de cet environnement de cocooning, en fait, autour de moi, et que en aucun cas ça ne me gêne d'avoir ce statut de papa et un peu autoritaire s'il le faut, quoi.
T'as des enfants qui ont quel âge?
Mon garçon Enzo qui a 12 ans et ma fille Lola qui prend 10 ans là.
Ok. Voilà. Parce que tu sais, j'ai un podcast qui s'appelle Histoire de Daron où je fais aussi parler des pères de paternité, parce que c'est un sacré dos, donc on pourra peut-être en parler tout à l'heure si tu veux.
Ouais.
Mais bon, pour te présenter rapidement, parce que j'ai même pas fait mon taf, mais en gros Alexis, t'es l'un des plus gros espoirs, on va dire même tu as gagné.
Bah ouais, ça serait
priori,
si simple de le dire comme ça, non ?
À Paris 2024, tu es triathlète,
ouais.
En paralympique. On va parler un petit peu de tout ton parcours. Globalement, ce qui s'est passé pour toi, c'est qu'en 2010, tu as eu un accident qui t'a blessé ta jambe violemment. Tu as eu 3 ans d'opérations en tout genre pour finir par décider, tu as décidé toi, que c'était mieux de l'amputer que de vivre avec une jambe handicapée.
C'est ça.
C'est ça ?
Ouais, dans les faits, en fait, je me fais accidenter le 5 août 2010. Je travaille chez un petit artisan en maçonnerie, voilà, dans le bâtiment, et je me fais broyer la jambe par un engin de chantier. S'en est suivi un long parcours du combattant pour sauver cette jambe, et finalement, en septembre 2013, donc quasiment 3 ans plus tard, je prends la décision de me faire amputer, effectivement. Donc voilà, ça a été un long parcours où j'ai eu beaucoup d'espoir dans un premier temps de sauver cette jambe. Et puis finalement, cette jambe, elle est sauvée médicalement, mais elle me fait souffrir au quotidien, et donc je prends la décision un peu brutale de me faire amputer.
Incroyable.
Et c'est une nouvelle vie.
Oui, parce que je t'ai lu dans une interview où tu disais qu'en fait, ça te permettait de pouvoir enfin passer à autre chose, quoi.
Ça tournait complètement la page de cet accident, et ça me permettait de me reprojeter sur de la faisabilité de faire des actions concrètes tous les jours, sans douleur, sans problème. Et bien sûr que c'est une décision qui n'est pas simple à prendre, puisqu'on ne peut pas faire machine en arrière, quoi. Une fois que c'est fait, c'est fait.
Oui, clairement.
Donc, il y avait un peu d'incertitude, mais...
Ça repousse pas, quoi. On n'est pas des vers de terre.
Je suis pas
quoi.
Encore un lézard, ouais. C'est ça.
C'est ça.
Si un jour je devais me réincarner, ça serait l'animal que je choisirais. Mais en attendant, voilà, je fais avec. Je compose avec.
Et en gros, dans cette deuxième vie, parce que tu pars un peu du principe que c'est un peu une deuxième vie pour toi, si j'ai bien compris.
Totalement,
quoi.
C'est une deuxième vie. Ouais.
T'as décidé de te mettre, alors on va en parler, mais t'as un parcours avançant de sportif de haut niveau, quoi. Et d'ailleurs, ça a l'air de t'avoir vachement frustré de pas avoir pu faire de sport pendant toutes ces années de blessures, justement. Mmh. Et tu décides de te reconvertir, entre guillemets, dans le triathlon.
Ouais.
Incroyable. Qu'est-ce qui te donne envie de te lancer dans le triathlon?
Bah, totalement ce défi de repartir d'un accident et de finalement repartir avec une nouvelle enveloppe charnelle, puisque voilà, je suis mutilé d'un bout de mon corps et cette envie complètement folle de croquer la vie à pleines dents et de me dire que je suis pas encore bon à mettre à la poubelle et je veux un challenge à la hauteur de ce qui vient de m'arriver. Donc voilà, je cherchais un sport difficile pour repartir sur des bases difficiles. Et je pense que j'ai choisi et j'ai trouvé ce à quoi je m'attendais, le triathlon, quoi.
Alors, est-ce que pour les gens qui connaissent pas le triathlon, tu peux un peu expliquer? C'est d'abord c'est de la nage, c'est ça?
Ouais, c'est
la natation.
C'est ça. Donc le triathlon, c'est la discipline donc de faire trois disciplines la plus vite possible. Donc toujours dans cet ordre-là, natation, vélo et course à pied. Donc forcément, il y a différents formats. Hein. Il y en a vraiment pour les débutants jusqu'à au plus aguerri et au plus fou, format Ironman. Mmh. Et donc voilà, donc c'est vraiment un sport qui est hyper accessible, que tout le monde peut pratiquer. Et en fait, bah voilà, moi il y avait beaucoup de logique à faire ce sport-là puisque c'est un sport d'extérieur. J'adore être dehors. Que finalement, bah voilà, c'était un défi que je voulais me relever. Et voilà, j'ai tout fait pour.
Bon, alors en gros, si je me trompe pas, tu participes en 2016 au championnat de France, c'est ça?
Ouais.
Si je me trompe pas, t'as fini deuxième.
C'est ça.
Et depuis, t'as globalement tout gagné, quoi. Je suis allé voir ton palmarès sur Wikipédia. Le gars, c'est simple. Hein. C'est 1-1-1-1 partout, quoi.
Ouais.
T'as tout raflé.
C'est sûr que, en fait, dans mon idée d'essayer de devenir le meilleur au monde dans ma catégorie, etc., je me suis très vite projeté sur, quel est mon niveau. Et donc, en 2016, effectivement, ma première compétition, c'est les championnats de France de paratriathlon. Ça m'a assez plu d'aller sur cette compétition-là parce que qui mieux que le niveau français pour me dire ce que je peux valoir au niveau international. Et la veille de la course, c'était assez drôle parce que les bruits de couloir, les bruits de faisaient croire que le podium était déjà joué d'avance parce qu'il y avait trois mecs de l'équipe de France ce jour-là et que moi j'étais totalement inconnu au bataillon.
Ah,
je m'entraînais seul dans mon coin et que voilà quoi, je suis arrivé avec sur la pointe de pied ou sur la pointe de la prothèse. Et puis voilà, en fait, ça m'a hyper amusé et finalement un peu hyper stimulé aussi de savoir que un podium était déjà gagné d'avance, quoi. Et donc le lendemain, c'est pas une victoire que je vais aller faire, mais c'est une deuxième place qui avait toute cette saveur de victoire parce que ce jour-là, je bats deux mecs de l'équipe de France et que voilà, c'est le début de toute cette histoire que je vais écrire avec le paratriathlon, quoi.
Et donc depuis, t'as un peu ruiné la discipline puisqu'en gros, t'as que des mecs derrière toi qui cherchent à aller plus vite que toi, c'est ça?
Ouais, j'ai pas ruiné la discipline, mais c'est sûr que j'ai poussé le level un peu plus haut. Mmh. Je suis quelqu'un de très déterminé, je me suis beaucoup beaucoup entraîné, j'ai repoussé énormément les limites de mon corps pour atteindre ce niveau aujourd'hui. Et je suis content parce que pour l'instant ça fonctionne très bien et je suis très content de gagner. Maintenant je suis dans une peau où forcément tout le monde veut me battre. Mmh. Donc c'est la difficulté aussi de se renouveler, de perpétuer un niveau d'excellence niveau sportif qui est pas si évident que ça parce que sur chaque course vous êtes l'homme à abattre et
oui.
Et ce rôle-là il est pas si évident que ça.
Donc ça depuis
quoi.
7 ans quoi, c'est ça?
Quasiment, ouais depuis 2017, ouais. Ouais.
Et comment tu vis alors ce fait d'avoir une cible?
C'est excitant. Moi, je le vis de façon très excitante puisque je me suis mis dans cette position-là tout seul. Hein.
Oui, t'aurais pu perdre.
Voilà, c'est ça. Maintenant, c'est excitant. C'est aussi un petit peu quelque part fatigant puisque effectivement, d'avoir l'excellence comme ça, en fait, tout le monde attend qu'une seule chose, c'est le trépas, c'est de pas gagner. Donc, je repousse cette échéance le maximum possible, mais j'espère que ça n'arrivera pas. Mais si un jour ça doit arriver, c'est les choses qui arrivent, quoi.
Alors, je l'ai pas dit, mais en gros, juste quelques mois avant ton accident, tu t'étais lancé dans le sport de combat quelques années auparavant et t'étais devenu champion de France de full contact.
Ouais, c'est ça.
Donc, et j'imagine à quel point tu te dis à l'époque, donc c'est mai 2010, hein, si je me trompe pas, ton titre.
Mmh.
Et donc, c'est en août, ton accident. J'imagine à quel point tu te dis, ok, champion de France de full contact, il y a peut-être moyen de me lancer dans une vraie carrière, quoi.
Oui, alors la grosse différence entre du full contact et du triathlon, c'est que le full contact est un sport amateur, c'est pas aux Jeux Olympiques, donc en fait, c'est très difficile d'en vivre, ça reste vraiment un milieu très fermé, à la grosse différence du triathlon. Et en fait,
c'est l'une des raisons pour lesquelles t'es allé dans le triathlon aussi, de te dire, OK, il y a aussi un moyen de gagner de l'argent grâce
Alors,
à ça?
Alors, c'était pas l'argent qui m'a amené vers le triathlon, c'était vraiment la reconnaissance de faire du sport pour de la compétition. Mmh. Moi, en fait, faire du sport loisir, c'est clairement pas mon délire. J'aurais très bien pu continuer la boxe avec une prothèse, mais en aucun cas, j'aurais pu faire des combats. Et moi, en fait, faire du sport loisir, c'est pas mon truc, en fait. Donc, c'est vraiment, le côté compétition, le côté challenge et finalement le côté potentiellement paralympique, le fait de pouvoir faire les Jeux paralympiques qui m'ont vraiment attiré dans un premier temps vers le triathlon en fait.
Ok, donc t'avais vraiment une vraie envie de te dire ok, j'ai envie d'aller au plus
les
haut
jeux,
quoi.
Les jeux. Sur le lit d'hôpital, je vais dire à ma femme très vite, je vais faire les Jeux paralympiques. J'ai pas essayé de prothèse, elle me dit redescends un peu sur terre, essaye une prothèse et
oui,
voilà.
T'as jamais couru de ce fait, t'avais Exactement. Jamais couru de ta vie avec
Exactement.
Une prothèse quoi.
C'est ça. Et moi, au fond de moi, j'étais persuadé que j'allais faire les Jeux paralympiques.
Et tout ça devient.
Ça vient que en fait j'ai un corps formaté pour faire du sport.
Oui.
Pourquoi je suis champion de France quelques temps après avoir commencé la boxe, parce que j'ai des grosses qualités physiques et un peu mentales aussi. Mmh. Où finalement moi à l'école je m'ennuyais beaucoup plus sur un siège derrière un bureau que finalement sur un terrain de sport.
T'étais basketteur avant, c'est ça?
Ouais, j'ai fait beaucoup de choses, mais le basket beaucoup d'années, ouais.
Qu'est-ce que t'aimais dans le basket? J'étais basketteur pendant 20 ans. Moi,
okay. Okay.
Donc j'adore le basket, pour moi c'est incroyable.
Ouais.
Qu'est-ce que t'aimais dans le basket?
Ben le sport collectif déjà. Mmh. Je pense que ça c'est un gros plus de savoir gagner ensemble et de perdre ensemble. Forcément on préfère gagner, mais le sport collectif pour moi c'est une valeur ajoutée. C'est-à-dire que si t'es dans un mauvais jour, c'est tes copains qui vont t'aider. Et inversement, si c'est toi qui es dans un grand jour, c'est peut-être eux qui sont moins bien, mais tu vas les aider. Donc ça c'est vraiment une notion collective qui m'a vraiment apporté et qui me manque un petit peu aujourd'hui.
Ouais.
Le basket c'est aussi une rigueur hein, parce que les gens qui connaissent pas disent qu'on peut pas se toucher au basket, c'est faux.
C'est des gens qui ont jamais joué vraiment.
C'est ça. Donc ça reste un sport de contact quand même et de placement et de stratégie.
Voilà, il faut dire aux gens qui se disent franchement on n'a pas le droit de toucher. En fait, de regarder toujours à l'opposé du ballon ce qui se passe.
C'est
vraiment.
C'est très stratégique. Il faut savoir faire les fautes vicelard en fait. C'est souvent ça un bon basketteur.
Effectivement, de savoir pousser un peu avec le cul.
Voilà, avec tout.
Tout
le coude, le cul et tout, quoi. Ouais, c'est ça.
D'où vient cet esprit de compète?
Je l'ai pas toujours eu parce que j'ai commencé le judo et ça a pas été le sport qui m'a transcendé puisque c'était pas dans mon ADN. Très jeune, j'étais plutôt, pas dire pantouflard, mais j'étais tranquille, la force tranquille. Et c'est vraiment à partir de l'adolescence où justement je me suis découvert en tant que basketteur, j'ai commencé à apprendre le capitanat de l'équipe, etc. Et c'est là où vraiment je me suis, j'ai appris à aimer la victoire. Et en fait, ce sentiment de tout le temps essayer de donner le meilleur de soi-même, à l'époque je m'entraînais avec les cadets, et je faisais l'entraînement senior derrière, et voilà, donc je doublais ou je triplais les matchs le dimanche, le samedi, enfin. Voilà, donc j'en ai toujours jamais eu vraiment assez en fait. Et à l'époque au basket, on va me trouver le surnom de Energizer.
Ah yes.
Qui allait assez bien, je pense, avec mon tempérament un peu tout feu tout flamme et un peu hyperactif quoi. Donc.
Mais pour le coup, au basket, t'étais à un niveau région moyen quoi. T'étais pas dans le top du top été dans la boxe et au.
Non, en fait,
aujourd'hui,
effectivement, j'étais à un bon niveau régional. Hein, ouais. Promotion d'excellence région à l'époque, ça tournait pas mal. Maintenant, la difficulté de faire du sport dans un milieu rural, c'est qu'en fait, c'est difficile de faire des détections. La fois où je vais faire une détection, je vais avoir 15 ans, je crois, et je vais aller au SPO Rouen. Et en fait, c'est un peu tard parce que j'y vais au mois d'octobre et que l'équipe, elle est déjà constituée au mois d'octobre. Donc voilà, on m'a décelé des bonnes qualités, on m'a décelé un bon niveau sportif, mais trop tardivement en fait. Voilà, donc je pense que j'ai loupé une certaine carrière à un certain moment et que, il est jamais trop tard pour bien faire.
Bah ouais, c'est ça. Et c'est l'envie de te dire, ok, je vais aller taper le plus haut niveau qui te donne envie d'aller vers la boxe?
Ouais, en fait, moi, j'ai toujours été dans une recherche de prendre le maximum de plaisir avec le maximum d'intensité. Donc, en fait, c'est que le haut niveau qui te fait monter en intensité. Donc, très vite, je me suis articulé et tourné ma préparation vers vraiment ce qui se fait de mieux et toujours repousser les échéances pour aller au plus loin et au plus dur possible, quoi.
Voilà. Et est-ce que t'as vécu, c'est un peu un cliché, mais ce combat contre enfin contre ta jambe, pas du tout contre ta jambe, mais en fait peut-être que tu voyais ta jambe un peu comme un ennemi, j'en sais rien, pendant ces 3 ans-là où j'imagine pour toi ça a dû être horrible quoi.
Bah, c'est le combat le plus difficile de ma vie parce qu'en fait ce qui est difficile dans un combat c'est que tu as un temps qui est donné. Là, le problème, c'est que tu n'as aucune notion de temps de la terminaison du problème, puisque en fait, tu prends jour par jour et que bah, malheureusement, ces opérations, il y en a certaines qui vont bien se passer, d'autres beaucoup moins bien. Et donc, tu fais un pas en avant, 2 pas en arrière. Mmh. Et finalement, de jamais voir le bout du tunnel, c'est ce qu'il y a de plus difficile parce qu'en fait, tu n'as aucune idée de la notion de temps que ça va prendre et cette incertitude totale pèse tout le temps sur tes épaules et tu n'arrives pas à t'épanouir tous les jours parce que tu n'es pas capable de faire ce que tu as envie de faire.
T'as fait 30 anesthésies, ça ?
C'est un ouais, truc de ma boule. une trentaine d'anesthésies générales en tout. Ouais. J'en ai eu 25 déjà en 3 mois à partir du moment où j'ai eu mon accident. Et après, j'ai eu à peu près 10 opérations à la suite de ça.
Waouh.
Ouais.
Alors, j'imagine qu'avec le recul, tu racontes un peu l'histoire de « Ok, j'ai décidé d'amputer la jambe parce qu'en fait, c'était plus simple. » Mais j'imagine à quel point ça n'a pas été aussi simple que ça. De prendre cette décision là sur le moment quoi.
Bah en fait c'est assez paradoxal parce que effectivement si on regarde aujourd'hui le parcours, ça aurait été plus simple de m'amputer sur le coup et j'aurais été debout beaucoup plus vite que finalement de vouloir s'entêter à vouloir sauver cette jambe. Sauf que malheureusement c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses, c'est que inconsciemment, psychologiquement, il était inconcevable de m'amputer à l'âge de 24 ans en fait. J'avais pas envie. J'avais tout sauf envie de ça. Donc en fait, ce temps, il a été formateur d'arriver à cette amputation. Et bien sûr que de moment, je me dis, j'ai perdu 3 ans de ma vie. Mais en fait, c'est pas vraiment perdu puisque aujourd'hui, je suis dans un état d'esprit où finalement, je suis en adéquation totale avec le corps que j'ai aujourd'hui. Ouais. Je l'ai choisi. J'ai choisi tout ce que j'ai fait. J'ai eu la chance de choisir de sauver cette jambe et j'ai eu la chance de choisir de me faire amputer.
Tu crois que... Oui, forcément, tu l'aurais pas vécu de la même façon si on t'avait amputé direct.
Complètement. Oui. Non, j'aurais été dans le déni. Je me serais toujours dit pourquoi on m'a pas laissé l'opportunité de. Et pourquoi ? Pourquoi ? Voilà. Là, il n'y a plus de pourquoi.
C'est incroyable.
Fini. Ouais.
Qu'est-ce qui te décide de prendre cette décision et de se dire « Ok, maintenant c'est bon, j'ai fait le deuil de cette jambe » et en fait... est-ce que tu as fait le deuil de cette jambe ou alors tu as fait le
totalement.
Deuil ? C'est ça ?
Totalement, le deuil est complètement parti, ouais. La jambe est partie. En fait, et ça j'en ai pris vraiment conscience dans la salle de réveil où en fait je viens de me faire amputer et en fait aussitôt je vais soulever le drap et pour moi il n'y a plus rien en fait. Mais ça m'a fait ni chaud ni froid. C'est-à-dire que cette jambe elle était déjà partie depuis un moment et que là dans l'instant concret, ça y est, enfin je vais aller vers autre chose. Voilà.
Et d'où l'idée, comme tu dis, de te réinventer une vie, quoi, c'est ça ?
D'où l'idée de repartir de zéro et d'où l'idée d'avoir très envie, très vite, de remettre une prothèse pour repartir du bon pied, si je puis dire, sans mauvais jeu de mots.
Et, allez, là, je te la laisse.
Ouais, j'en ai quelques-unes.
T'as le droit de les faire.
J'en ai quelques-unes. Mais non, c'était important pour moi, en tout cas, de pouvoir recommencer à rêver de faire n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment.
Ah oui, t'avais vraiment ça en tête.
Ah bah,
c'est-à-dire
totalement.
De faire n'importe quoi, n'importe où, n'importe
comment. Bah ouais, j'ai été frustré, j'ai perdu 3 ans de ma vie en fait. Grosso modo, c'est ça le constat, hein, c'est que ces 3 ans-là où je fais rien, voilà. Et je suis emmerdé, je suis embêté par toutes ces opérations, par toutes ces cicatrisations qui n'arrivent pas à se mettre. Enfin voilà, c'est une coquille en fait que j'ai fait de ces 3 ans. Je l'ai enfouie en plus profond de moi. Mais ces 3 ans-là, je les souhaite à même pas mon pire ennemi en fait, parce que en fait tout a été noir, tout a été voilà, à part la naissance de mon fils et mon mariage, il n'y a pas eu grand-chose de très, très folklorique sur ces 3 années-là. Quoi.
Et quand tu dis c'est une coquille, ça veut dire quoi ? C'est
que j'ai tout enfoui. Tout enfoui. En fait, je suis en train de... Enfin là, ça y est, le livre va sortir sur mon histoire. Mais en fait, il a fallu retracer justement et ressortir pas mal de souvenirs de ça et ça a été un peu difficile parce que je suis quelqu'un qui va de l'avant et que je dis pas souvent ce que je ressens, pas souvent ce que j'ai pas envie de faire voir finalement un peu mon côté faiblesse, mon côté un peu viril peut-être, hein, voilà.
T'as besoin justement de te montrer viril.
J'aime me sentir fort et j'aime avoir l'idée que je renvoie une image de force. Et finalement. Toute cette fragilité, toute cette mauvaise ambiance que j'ai pu avoir, que j'ai pu subir au cours de cet accident, et ben en fait très vite, inconsciemment, j'en ai fait une coquille que j'ai avalée le plus vite possible, le plus profond possible en moi. Et c'est une coquille que j'ai cassée que 2 ou 3 fois depuis. Et à chaque fois que je la casse, elle me fait tellement souffrir que finalement, je la reforme très très vite en fait.
T'es pas allé du tout en thérapie? T'es pas allé voir genre
jamais.
une psy
jamais.
Parce que quand même, putain.
Jamais.
Pour le coup, tu vois, on est en plein dans le deuil et ça fait partie des trucs, tu vois, que t'aurais pu, bah, comme tu dis, plutôt que de l'enfouir, d'aller le partager à...
Jamais. J'ai une fois sur mon lit d'hôpital, au bout de peut-être 10-15 jours que j'étais hospitalisé et accidenté, une psy qui est venue dans la chambre. Elle est restée 3 minutes, je lui ai demandé de partir. Parce que c'était pas du tout mon truc et j'avais...
Ah, tu voulais pas?
Bah, j'avais peur qu'elle perde son temps, en fait. Et j'avais pas de temps à perdre à parler avec une personne de ça et j'avais pas envie. Donc voilà. Et puis non, je pense que... C'est une chance ou pas que j'ai, mais voilà, j'ai pas besoin d'accompagnement, voilà, sur cet aspect-là. Je pense que mentalement, je sais ce que j'ai traversé. J'ai pas besoin d'en parler. J'ai pas envie d'en parler.
Mais t'es là pourtant.
Et pourtant j'en
parle.
Pardon,
c'est moi. Je suis casse-couille alors. C'est
non,
ça.
Non, mais pourtant j'en parle. Mais
puis en ça fait, c'est tellement. Enfin, pour moi, c'est tellement puissant comme témoignage que ça gagne à être connu. C'est-à-dire que je pense à tous les petits Alexis de 20 piges, tu vois, qui se retrouvent peut-être dans la même situation que toi, d'une manière ou d'une autre. Je trouve ça incroyable de venir raconter justement les moments difficiles que tu as pu enfouir. Et alors, je savais pas que tu sortais un bouquin, donc trop bien, mais ouais. Tu racontes ça justement dans le livre.
Ma rage de vaincre.
Ok.
Voilà. Et intitulé Ma rage de vaincre, et l'idée, c'est vrai. De base, c'était pour laisser un héritage à mes enfants, parce qu'ils savent l'accident, mais ils savent les grosses lignes. Et là, on est un peu plus dans un côté intimité où on parle d'opérations, de tous ces échecs, de toute cette complexité d'avoir rêvé d'être un jour athlète. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un médecin qui aurait mis une pièce d'un euro sur moi. Puisque déjà, le fait de marcher avec une prothèse, c'était déjà presque pas un miracle, mais en tout cas, c'était déjà difficile de me faire marcher.
Donc, c'est vrai.
Ouais, j'avais des énormes cicatrices parce que cette jambe, elle a été mutilée. Alors, il n'y a pas eu de fracture. Mais elle a été complètement explosée par le choc. Donc, toutes les parties molles, les nerfs, les muscles, les tendons, tout a explosé. Et donc, en fait, ça m'a laissé des énormes cicatrices. Et ces cicatrices, du coup, c'est de la mauvaise peau. Et cette mauvaise peau, du coup, m'a porté des cloques à répétition. Donc, déjà, hein, le fait de marcher me portait des cloques.
C'était
dur. Avant de réfléchir à courir des 10 ou 15 kilomètres et des marathons, etc., c'était très, très... optimiste.
Ok. Et tout ça, tu le racontes dans le bouquin, c'est ça?
Ouais, tout ça, ouais. Je le raconte un peu dans le bouquin parce que effectivement, j'ai notion et j'ai conscience que mon récit, que mon histoire, elle peut en inspirer plus d'un. On parle d'accidentés, mais pas forcément qu'eux, en fait. Et en fait, j'ai aucun problème à raconter ça. Mais c'est juste. Voilà, c'est juste que j'ai un côté un peu intimiste où finalement, tout ce que je vais raconter aujourd'hui, pas une seule seconde, les gens ne peuvent s'imaginer ce que j'ai réellement traversé. En fait, c'est vraiment ça. Quand on me parle de douleur, j'ai pas de mots pour exprimer la douleur que j'ai ressentie.
Oui.
C'est même pas qualifiable, c'est intransposable. J'ai des photos...
De douleur physique, de douleur psychologique.
C'est le tout réuni, mais surtout physique. J'ai réussi à obtenir des photos de ma jambe. Alors j'ai bataillé parce que les chirurgiens voulaient pas me les donner. Et je savais que des clichés avaient été pris parce que j'ai été un cas d'école monstrueux sur le CHU de Rouen pendant pas mal de temps.
J'imagine.
parce que ça a été un vrai chantier de sauver cette jambe. Et en fait, j'ai eu besoin d'avoir des images pour mettre des émotions et des ressentis sur la douleur que j'ai pu subir. Et en fait, quand tu vois les photos pour la première fois, tu t'imagines et j'ai compris finalement ce qui m'était arrivé et pourquoi j'avais autant besoin de morphine, autant de cachets, etc., etc.
Est-ce que tu as la sensation que cette douleur-là que tu as ressentie, encore une fois, comme tu dis, je ne peux pas imaginer, hein, c'est-à-dire que le triathlon n'est pas un sport très simple, si j'ai bien compris, en termes de dépassement de soi.
C'est pas mal, ouais. C'est pas mal, ça te donne une petite goutte de sang dans la bouche, ça peut arriver, voilà.
J'imagine à quel point tu as dû souffrir aussi quand tu t'es lancé dans.
Ouais, mais ça n'a rien à voir. C'est incomparable.
Tu peux m'en parler?
Bah, c'est incomparable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avoir un entraînement ou une séance vraiment difficile, bien sûr que sur l'instant T, je souffre comme tout le monde. Mais je pense que, honnêtement, quand tu subis un accident comme le mien, tu repousses cet aspect douleur et cet aspect coefficient à la douleur. Je pense qu'aujourd'hui, je suis clairement en capacité de soutenir et de m'habituer à une douleur beaucoup plus facilement que n'importe quelle personne qui n'a jamais, malheureusement, enfin, ou pas, eu un accident dans sa vie, quoi.
T'as la sensation que ça t'a donné un avantage compétitif aujourd'hui par rapport à tous tes concurrents ?
Bah, avantage compétitif en milieu paralympique, je suis pas sûr, parce que finalement, je pense qu'une grande majorité ont été accidentés comme moi. Alors, il y a des problèmes de naissance, mais souvent, c'est des accidentés. Donc, finalement, je pense que cet acquis de conscience, cet acquis de douleur, on l'a tous plus ou moins connu. Maintenant, dans la vie de tous les jours, moi, j'ai la chance d'avoir cette perception de goûter à chaque jour. Parce qu'en fait, en une fraction de seconde, ta vie peut basculer. Et ça, malheureusement, tant que ça t'est pas arrivé ou à quelqu'un, à toi ou à ton proche, bah, tu penses que ça arrive aux autres. Et ça, c'est une erreur parce que malheureusement, ça n'arrive pas qu'aux autres.
Donc, tu profites de la vie.
Je profite à 100% de la vie.
La sensation de tout bouffer.
Bah, en tout cas, j'ai pas forcément toujours le temps de tout bouffer, mais en tout cas, je laisse pas souvent de reste, ça c'est sûr. Et l'idée de profiter des moments simples de la vie, c'est souvent ceux-là les meilleurs. Puisque en fait on s'amuse tous à rêver que de vacances et à économiser pour partir en vacances, mais souvent c'est une erreur parce que les moments simples de la vie sont souvent les meilleurs. Et un vendredi soir, un apéro dînatoire avec sa femme et ses enfants, ça vaut tout l'or du monde. Et ça vaut pas le coup de partir à Fréjus ou à Saint-Raphaël ou je ne sais où. Voilà, on peut passer à des très bons moments à Paris, à Rouen ou à n'importe où, quoi.
Ouais, je comprends. Je voulais te parler d'argent, justement. Tu vois, tu parlais de, il y avait pas besoin. Aujourd'hui, c'est grâce à Gillette qu'on se retrouve. Gillette qui est l'un de tes sponsors.
Ouais.
Je me demandais un petit peu parce que j'imagine à quel point ces prothèses coûtent cher. On peut en parler de ton parcours en fait par rapport au fait. Alors, tu disais en termes de, on va dire mécanique, de déjà pouvoir réussir à les mettre, mais j'imagine que il faut les construire. J'imagine que t'as pas la même prothèse pour faire de la natation ou du vélo,
ouais.
etc. Enfin, et donc ça veut dire que tu devais avoir trois fois plus de prothèses. Enfin, j'en sais rien. Tu peux me raconter un petit peu ça.
Effectivement, aujourd'hui, amputé, on peut tout faire. Ça, c'est sûr. Maintenant, on peut tout faire, mais pas n'importe comment. C'est-à-dire qu'en fait, il faut une prothèse adaptée à chaque situation. Donc, moi, j'ai sauté en parachute, j'ai fait de la plongée sous-marine, je fais du ski. Voilà, je fais beaucoup de vélo, beaucoup de course à pied, etc. Donc en fait, à l'époque, je me moquais des femmes avec leur garde-robe, et moi aujourd'hui, je me retrouve à me moquer de moi-même avec mon garde-prothèse, en fait. Selon telle activité, qu'est-ce que je dois mettre,
ouais. T'en as combien?
Un peu ça le concept. Ouais, je crois que je dois avoir 6-7 okay. prothèses, quoi. Et ce qui est dur, c'est que finalement, ces prothèses-là, toutes les activités sont possibles à faire et à réaliser. Malheureusement, toutes les prothèses ne sont pas prises en charge. Donc là, on a un vrai sujet et plutôt une bonne nouvelle depuis peu, puisque l'État a décidé de prendre en charge les prothèses de course à pied. Donc les prothèses de course à pied, les lames en carbone, sont prises en charge à partir de cet été 2024. Donc ça, c'est quand même un grand pas en avant, si je puis dire. Un grand bond en avant. Puisque à l'époque c'était pas le cas, et encore une fois, l'idée de parler de sport de haut niveau, c'est super, et je remercie forcément Gillette et Procter & Gamble pour l'accompagnement qui mettent en moi et qui croient en moi. Mais finalement, en fait, la pratique du sport pour tous, bah, on se rend compte qu'effectivement on n'est pas tous sportifs de haut niveau, et que l'accessibilité aux prothèses était un frein pour la pratique au sport. Et donc l'État a, pour moi, a énormément joué le jeu, et c'est quelque chose à notifier et à relever que...
Je savais pas, tu vois.
Voilà, non, mais en fait, ils ont encore peu communiqué dessus, parce que c'est encore pas tout à fait...
officiel.
Abouti. Okay. Abouti. Mais a priori, là, moi, j'ai eu un repas avec le président la semaine dernière, et il m'a confirmé qu'à partir du mois de juin...
Excuse-moi, j'ai eu un repas avec le président.
non, mais c'était exceptionnel.
T'étais avec d'autres athlètes, c'est ça?
Ouais, c'est ça. On était avec une poignée d'athlètes pour parler de Paris 2024 et des derniers réglages. Et donc, il m'a affirmé qu'à partir de juin 2024, les prothèses de sport seraient prises en charge.
Ok. Bah, merci pour cet exclu.
Ouais, y a pas de problème, ça fait plaisir.
ça coûte combien une prothèse, à peu près?
En moyenne, une prothèse, c'est environ 6000 euros, quoi, à peu près. Entre 6 et 8000 euros, ça dépend de quellement, réellement ce que vous voulez faire. Est-ce qu'elle doit aller dans l'eau, pas dans l'eau, etc. Enfin, voilà, il y a plein de petites données à connaître, mais grosso modo, c'est ça.
Comment t'as fait pour te les payer, en fait, au départ?
Bah, ça a été un des plus gros défis de base, puisque à l'époque, moi, je viens d'être licencié de mon job, et que j'ai deux enfants en bas âge. Et que pour moi, à l'époque, il est inconcevable de faire un crédit pour m'acheter des jambes, en fait. Donc, c'est un peu la difficulté. Et je vais me faire aider. Et on va partir dans ce défi de dire, bah, OK, tu veux faire du triathlon. Il faut trouver à peu près 15 000 euros pour les deux prothèses.
Wow.
Et donc, je vais créer une petite association qu'on va appeler le sport du bon pied.
Ok.
Voilà. Et on va vendre des t-shirts, on va faire des soirées loto, gospel, etc. On va se débrouiller. Hein, c'est le système D, mais voilà, on va y arriver petit à petit et finalement ça rend encore les choses plus belles, quoi.
Donc tu veux dire que c'est cet asso qui t'a financé
Ouais, en fait, clairement, hein. Ça a été le plus difficile pour moi dans ma conception justement de mon éducation, c'est que j'ai eu besoin d'aide.
Ah.
Et en fait, dans mon tempérament, c'est difficile de demander de l'aide. Et
très masculinité, ça, tu sais, ce truc
sûrement,
de savoir tanker et d'encaisser plutôt que.
Ouais, un euro gagné, c'est un euro que t'as gagné à la soirée de ton front, quoi. C'était un peu moi le principe dans lequel j'ai été élevé. Et là, malheureusement, c'est pas possible à ce moment-là pour moi d'aller chercher cet euro tout seul. Donc, donc voilà, ça a été le moment le plus difficile pour moi.
Et quand tu dis à la sueur de ton front, t'étais dans la maçonnerie.
Ouais.
Donc c'est vraiment.
Ah oui, c'était vraiment
c'est
cette
pas
notion.
Une image, quoi.
Non, c'était vraiment cette notion de transpirer pour gagner sa vie, quoi. De donner de toi, quoi. Et ce passage-là a été le plus difficile pour moi.
Ah ouais?
Ouais. Bah ouais, parce que c'est pas naturel pour moi. Ça a été difficile. C'était pas évident pour moi.
De recevoir de l'aide
de demander de l'aide, en fait. Voilà, c'est compliqué.
Et dans ton parcours là aujourd'hui, tu t'arrives à demander de l'aide, j'imagine, en fait, quand t'es à ce niveau, que t'es obligé de demander de l'aide, non? Ou alors tu fais tout seul, tu tankes?
Non, je peux pas faire tout
seul comme un bonhomme.
non, bien sûr que non, bien sûr que je me suis épaulé de gens très qualitatifs autour de moi, que ce soit ma femme, mon manager, mes coachs, mon prothésiste. Voilà, il y a des gens qui font partie de tout cet univers où finalement ça serait trop machiste de justement résumer la victoire à Alexis en Quincan. Il y a tout un environnement, il y a toute une alchimie autour de tout ça, mais c'est super gratifiant parce que c'est une vraie histoire humaine, en fait. On est parti avec ma femme de rien et on a monté les échelons. Voilà, on a été un petit peu aidé de base, mais vraiment on y a cru à 100%. On a remué scié les terres et finalement oui, de se retrouver à manger à l'Élysée la semaine dernière, je l'ai volé à personne, quoi.
Quand tu dis avec ma femme, elle a joué un rôle prépondérant dans ton histoire sportive?
Bien sûr, elle a toujours été là. On était déjà là ensemble avant mon accident. On s'est marié, on a eu deux enfants, on est parti de rien, on a eu des moments de doute, de galère, puisque forcément cet accident il est impactant physiquement, il est impactant moralement, et puis il est aussi impactant financièrement parce que c'est compliqué, en fait. Et en fait, de tout ça, on en est ressorti tellement plus fort qu'au final, on n'a pas le tempérament à se poser, mais je pense que quand on se posera dans quelques années et qu'on se rendra compte du chemin parcouru, on pourra être fier de nous, quoi.
T'as 38 piges aujourd'hui?
Il paraît. Dans la tête ou dans le corps?
Bah, justement.
sur la tête. Les cheveux blancs.
J'allais t'en parler. Parce que tu comptes t'arrêter quand? Je me rends pas compte à quel point le fait que tu sois en paralympique ou en para. Ouais. Tu vois. Te permet de pouvoir allonger, entre guillemets, ta carrière, quoi. Parce que donc là, t'es au top du top.
Oui.
Déjà, à 38 piges, être au top du top d'une catégorie, c'est pas dans tous les sports que
non,
c'est possible, quoi.
C'est
tu
vrai.
Vois
c'est vrai, le triathlon est un sport de maturité, donc c'est vrai qu'on peut performer, entre guillemets, un peu sur le tard. Pourquoi? Parce qu'on a une vraie notion de se connaître. Et c'est hyper important parce que souvent, la petite bêtise des petits jeunes, c'est qu'ils donnent tout à fond et qu'après, derrière, ils explosent, quoi.
C'est un marathon.
Donc nous, en étant un peu plus vieux, on se connaît un peu mieux. L'idée, c'est qu'effectivement, 38 ans, c'est le bel âge. Je commence à être bien. Maintenant, pour moi, la notion la plus importante, c'est la notion de plaisir. Et moi, aujourd'hui, j'adore ce que je fais. Donc déjà, ça serait bête de s'arrêter là. Et puis encore.
Surtout que tu gagnes tout. Donc.
Et encore une fois, il y a la notion de compétitivité. Je voudrais surtout pas partir la tête basse et finir dernier d'une course. Ça, franchement, ça serait pour moi un gros échec.
Ah ouais.
Bah ouais.
Tu comptes t'arrêter avant?
En tout cas, je compte m'arrêter à partir du moment où je suis compétitif, mais que je commence à un peu moins gagner, en fait. Voilà, je veux rester sur une bonne note. Je veux pas partir vraiment à finir dernier d'une course. Donc, ce qui est sûr, c'est que là, dans les prochaines semaines, je vais être taqué pour gagner, j'espère, la plus belle des médailles à Paris. Je vais me poser un petit peu l'année prochaine pour partir un peu en famille, parce que finalement, cette vie de triathlète, elle t'impose de pas prendre de vacances l'été. Donc c'est voilà, c'est 3 semaines de coupure souvent à la période de la Toussaint. Mmh. Donc voilà, on a quand même un rythme familial qui tourne autour du triathlon et finalement on a peu de vraies vacances comme des gens lambda. Donc j'ai vraiment envie de leur faire découvrir le Japon qui est un pays extraordinaire et que je suis tombé totalement amoureux. Et en fait aujourd'hui penser faire Los Angeles, c'est pas irréalisable. Mmh. Donc ça me ferait 42 ans.
Los Angeles en 2028.
Ouais. Donc ça me ferait 42 ans. Je pense que ça pourrait être un aboutissement. En fait, il y a un challenge qui quelque part me titille un peu, c'est que à Los Angeles, il est fort probable qu'il y ait une deuxième course de paratriathlon qui s'ouvre. Ça serait un relais mixte homme-femme.
Ok.
Sur un format très court, format sprint, ultra sprint même. Donc voilà. Le fait que ça soit une première course dans l'histoire des Jeux paralympiques, peut-être que ça serait mon barreau d'honneur.
Ça me titille, Alexis, je sens.
Ça me titille un peu, quoi. Voilà. Donc, on aura notre premier championnat du monde cette année, en 2024, à Malaga. Un championnat du monde, donc, en relais homme-femme.
Ok. T'as trouvé une partenaire?
C'est par quatre.
Ah, c'est par quatre,
ouais,
ok.
Équipe de quatre. Voilà. Ok. Donc, 2 hommes, 2 femmes. Et donc, voilà, on verra ce que ça donnera déjà sur le championnat du monde là, cette année. Mais ouais, c'est quelque chose qui me branche un peu. Et finalement, on retrouve un peu ce côté collectif.
Oui, c'est ce que j'allais
que
dire.
Que j'ai perdu dans le basket. Donc, okay.
Voilà. Donc, t'as trouvé une bande?
On a une bonne équipe. On a fait 2e l'année dernière sur le format qui était pas un vrai championnat du monde. Mais en tout cas, voilà. Et derrière les Américains. Donc, les Américains sont une très grosse nation du paratriathlon mondial. Mm. Donc, je pense qu'on a de quoi se tirer la bourre avec eux, quoi.
Trop bien.
Ouais.
Incroyable. Comment t'envisages cette épreuve là à Paris? Est-ce que, parce que bah je l'ai dit tout à l'heure, mais en gros t'as tout gagné et t'as aussi, on peut peut-être raconter ça, mais que en gros tu t'es lancé dans le triathlon un peu trop tard par rapport à Rio en 2016,
ouais.
Que j'imagine que ça devait te gonfler un petit peu de te dire putain j'ai raté.
Ouais, sur le papier, bien sûr que si je me remets fin 2016, début 2017. Je suis assez frustré à pas grand chose à un an près, je pense, de louper les Jeux de Rio. Donc, c'était assez difficile. C'était les premiers Jeux en paratriathlon. Donc, il y avait une vraie attente autour de ça. Mais je l'ai assez vite relativisé en me disant que finalement, ma participation ou pas aux Jeux, ça, c'était anecdotique parce que j'y allais sûrement pour faire dernier, en fait. Donc, finir dernier d'une course, c'est pas dans mon optique. Donc, je pense finalement que j'ai préféré ne pas y aller que de finir dernier. Et comment j'imagine Paris, ça va être extraordinaire. Ça va être extraordinaire parce qu'on a un sport qui est hyper médiatique, qui est hyper populaire, qui est hyper spectaculaire. Donc les gens vont forcément avoir envie de découvrir ce sport-là. Le fait que ça soit gratuit, qu'il n'y ait pas de billetterie, que tu ailles sur le bord de la route, voilà.
Pour encourager.
Encourager, ouais. Tu vas prendre au plus près les athlètes, etc. Donc tu vas vibrer. Donc ça, c'est exceptionnel. Le fait que ça soit autour des meilleurs, plus beaux sites de parisiens, le pont Alexandre III, le Grand Palais, etc. C'est assez magique. Voilà, la grosse interrogation, ça reste toujours cette natation dans la
Seine.
C'est
la flotte. On peut peut-être expliquer. C'est que s'il y a un grand débat.
Ouais, c'est la qualité de l'eau, de la Seine qui pose question et voilà, qui quelque part forcément me stresse et me frustre un peu parce que en fait moi je nage entre 5 et 6 fois par semaine, autour de 30 à 35 km de natation par semaine, et c'est pour que ça nage en fait. Moi je fais du triathlon, je fais pas du duathlon. Donc si jamais cette épreuve de natation elle devait être annulée, on a ce qu'on appelle un duathlon. Et en fait, ce serait pas du tout la même chose. Mmh. Et pire encore au niveau paralympique, c'est-à-dire que nous on est classifiés selon les 3 disciplines: natation, vélo, course à pied. Et si demain on est amené à faire une discipline, enfin à retirer une discipline, ça veut dire que les athlètes, certains athlètes sont favorisés ou d'autres défavorisés.
Oui. C'est-à-dire que toi t'es peut-être bien meilleur nageur que coureur.
Exactement.
Quoi.
Okay. Donc il y a un petit Espagnol par exemple qui a un handicap de bras, bah forcément lui en natation il est pas très bon. Par contre il court comme un petit lapin et forcément le fait de lui dire bah tu vas courir 2 fois et tu voudras pas nager, bah lui il va avoir le sourire jusqu'aux oreilles quoi. Et en fait ça devient un vrai problème éthique et logique en fait.
Incroyable. Je suis dans les médias cette histoire de ouais, est-ce que l'eau de la Seine sera suffisamment.
Mais je suis confiant honnêtement. Je sais que Paris 2024 a énormément travaillé là-dessus et voilà des athlètes comme moi on passe ce message qu'il faut que ça soit à tout prix un triathlon pour la beauté des jeux, pour la mixité des jeux et finalement pour notre propre sport.
Bah oui.
Si demain on retire un ballon de basket et qu'on leur met un ballon de hand entre les mains, ils vont dire que c'est pas leur sport. Bah, c'est un peu la même chose en fait.
Waouh, l'analogie est incroyable. C'est vrai
ça,
que
c'est
un match de basket avec un ballon de hand, on n'en veut pas quoi. Tu vois.
C'est ça. Wembanyama, il prend avec 2 doigts.
Oui, c'est ça. C'est une clémentine le truc. Qu'est-ce que je voulais te demander? Attends, putain, merde, j'ai raté le...
Ah oui, mais il y en a avec, Clémentine, ça t'a perturbé. Hein.
Oui, parce que tu as gagné, gagné ta première médaille olympique, donc à Tokyo.
Oui.
C'est à ce moment-là où tu disais que tu as découvert le Japon? Ou c'était déjà plus tôt?
Ouais, alors c'est grâce à cette expérience de ouais. Tokyo, en fait, où dès 2018, avec la Fédé, on a tendance à... Alors, tous les ans, on a une course à Yokohama, au mois de mai. Donc forcément, j'y allais déjà pour Yokohama. Et puis, en plus de ça, c'est rajouté le pré-camp. On a eu le test event, donc c'est la même course que les Jeux un an avant, donc en 2019. Donc voilà, j'ai... C'est un pays qui m'a énormément attiré. Et, ouais, j'ai eu la chance de faire... Vraiment, pour les Jeux de Tokyo, on a dû faire 2 fois 10 jours quasiment là-bas. Donc, ouais, c'est un pays extraordinaire.
Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as gagné cette médaille olympique? Parce que, si je me souviens bien, tu étais dans ton lit d'hôpital et tu disais « Ok, ouais. ça va partir en Jeux paralympiques
ouais. ».
J'imagine ta femme te dit « Mais calme-toi, fais une sieste et puis on verra après, quoi ».
Bah, ce qui est dingue, c'est que, en fait, de ce rêve de faire les Jeux paralympiques, j'avais jamais rêvé... finalement d'être champion d'Europe, champion du monde et champion paralympique. J'ai rêvé d'une participation. À l'époque, je pensais même pas pouvoir forcément être capable d'être champion. Je pensais faire. Il y a une grosse différence. Et finalement, en fait, de 2017 à réellement 2021, ces titres de champion d'Europe et champion du monde, j'ai envie de dire, c'est presque qu'une cerise sur le gâteau parce qu'en fait, j'avais pas spécialement quantifié de pouvoir être champion du monde ou champion d'Europe. C'est venu par la force des choses, quoi, mais c'est exceptionnel, en fait. Je suis très content du résultat.
Parlons de ta vie de papa, si tu veux bien.
Ouais.
Comment tu vis ta vie de sportif? Comment t'arrives à conjuguer ta vie de sportif avec ta vie de daron?
Bah, c'est la grande difficulté d'être un daron, c'est que forcément il y a des impacts importants, des absences importantes en vue d'être athlète de haut niveau. Donc en fait, moi j'essaye vraiment d'être focus à 100% quand je suis à la maison. C'est-à-dire que en fait quand je suis en préparation à la maison, j'articule ma journée un maximum sur leur rythme scolaire. Donc je me lève le matin un petit peu plus tôt qu'eux, je déjeune et après je leur fais leur petit déjeuner, donc je passe une petite demi-heure avec eux à peu près, je leur donne un coup de main le matin, etc. Je vais porter mon fils au collège et après je commence ma journée et on se revoit grosso modo. Moi j'essaye de finir maximum ma journée à 17h-17h30 pour essayer de donner un petit coup de main justement au devoir, etc. le soir, donc essayer d'épauler ma femme un maximum sur ces moments un peu galères, hein, parce que les devoirs ça reste quand même quelque chose d'assez chiant, on va dire. donc voilà, et finalement j'essaye de maximum profiter d'eux parce que je sais que, et j'ai notion que le temps passe malheureusement trop vite et qu'ils grandissent très vite. Et
ton fils a 12 ans, c'est ça?
Ouais, 12 ans, ouais. 12 ans, 1m72 à 12 ans.
Ah ouais, j'allais dire.
Pas mal, tu vois. Et pour un basketteur, il est pas mal.
Fait du basket?
Ouais,
énorme. Tu l'as collé au basket?
Il s'est collé au basket. C'est collé 1m72, au basket. Bah, pas le choix, ouais. Quoi. Voilà, faut en profiter, quoi.
Et comment ils vivent le sport? Comment tu vis le sport avec eux aussi, à travers eux, quoi? Tu vois, je me demandais un petit peu.
Alors,
si vous avez...
pour moi, le sport est essentiel. Moi, quoi qu'il arrive, je leur demande de faire du sport. Pas forcément en compétition, parce qu'ils peuvent faire du sport loisir, ça me dérange en aucun cas. Mais pour moi, la pratique du sport est essentielle et le sport, ça reste la cohésion, ça reste le partage, ça reste la mixité. Pour tous ces échanges-là, en fait, en aucun cas, ils ne peuvent pas prendre de licence.
Ils sont obligés,
voilà. Donc du coup, voilà, ils sont partis là sur des sports collectifs pour le moment. Je pense que ma fille a des belles qualités physiques et...
Elle fait quoi, elle?
Elle fait du hockey sur gazon cette année.
Ah ouais, ok, trop bien.
Et je pense qu'à la rentrée, elle va s'essayer à de l'athlétisme quand même, parce qu'elle a tendance à courir plus vite que tous les garçons de sa classe. Donc je pense qu'elle a quand même quelque chose
c'est
à jouer.
C'est très bien un peu de mettre la misère au petit mec,
ouais,
là, tu vois.
Ouais, c'est ça. Bah là, elle est un peu Wonder Woman, donc ouais, ça lui plaît bien de latter les garçons, là. Donc c'est pour toutes ces raisons-là que je lui ai dit, bah, ça serait bien que tu ailles en club d'athlé à la rentrée, donc elle va sûrement faire des petits essais, quoi.
Comment ils vivent ta carrière de sportif, eux, de leur côté? Vous en parlez un petit peu
Bah,
comment est-ce qu'ils se rendent compte de ta carrière incroyable? Parce que je sais que c'est les gamins, parfois ils ont tendance à juste dire bon bah, c'est mon daron, quoi, tu vois, c'est tout.
Oui, non, je pense que plus les années passent, plus les mois passent, et plus ils se rendent compte finalement quand même de la carrière que je suis en train de mener. Souvent, c'est vrai, c'est sûr que dire que son père est champion du monde, mais champion du monde, c'est quoi? Le monde à 7-8 ans, on sait pas vraiment ce que c'est, quoi. Donc là, à 12 et 10, ça commence à être plus concret ce que c'est que le monde. Et puis, c'est souvent aussi leurs copains, leurs copines de cours d'école, etc., qui leur disent souvent, voilà, t'es le fils à Alexis. Enfin, voilà, donc, il y a un vrai, j'espère en tout cas qu'ils ont une notion de fierté. En tout cas, c'est un peu ça, comme ça que je perçois, je pense, les choses. Et en fait, je suis très content de partager ça avec eux. Moi, je sais que souvent, le dimanche soir, on regarde Stade 2 ensemble. Voilà, c'est un moment convivial où moi, je me nourris énormément de l'actualité sportive. Ouais. J'adore ça. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et voilà. Donc voilà, je leur impose pas de croire ou de penser à un sport plus qu'un autre. Hein. Je les pousse pas à faire du triathlon, bien au contraire. Mais je pense que c'est important que chacun trouve sa voie, en fait.
Ouais, c'est cool. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené, dont tu aurais aimé parler,
de profiter de la bienveillance. Voie. Je pense que la bienveillance envers autrui. On parle d'enfants. Ce matin, j'ai un peu débattu, en tout cas rappelé le harcèlement scolaire, les difficultés de certains enfants face à la différence, face à plein de choses. Ça l'est aussi chez les adultes. Hein. Je pense que la bienveillance après le Covid, finalement, ça a vraiment noirci les relations humaines, je trouve. Et bah voilà, moi qui a connu un peu la galère, bah je me rends compte qu'on a un peu tous trop souvent la tête dans le guidon et pas trop regarder ce qui se passe autour de nous. Donc voilà, cet esprit de bienveillance, cet esprit de rêver, parce que moi un jour j'ai rêvé que je serais champion paralympique et pour autant ça paraissait un rêve totalement fou.
C'est incroyable cette histoire.
Et finalement je peux vous assurer que si vous avez la chance un jour de réaliser votre rêve, c'est juste quelque chose d'exceptionnel. C'est même pas quantifiable, c'est même pas explicable. Donc voilà, cette notion de rêver, on est tous capables de rêver, petits comme grands. Donc c'est ça que j'aime faire passer comme message, que couchez-vous ce soir, fermez les yeux, rêvez fort. Et voilà, je vous souhaite de rêver très fort.
Bah, merci Alexis. Hein. Merci. Et je te souhaite d'aller gagner cette médaille hein, à Paris.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup encore pour ce moment passé ensemble.
C'est un plaisir.
Et puis merci à Gillette de nous avoir permis de pouvoir discuter. Je suis très heureux d'avoir pu faire ta connaissance.
C'est un plaisir partagé. Dimanche 1er septembre pour Alexandre III.
Yes.
Voilà, 10h15 à peu près le départ de ma course.
Et puis je mettrai un lien vers ton Insta voilà, pour que les gens puissent aller suivre un peu ton
actu. Curieux. Quoi. Soyez curieux.
Exactement.
Là merci. Vous avez le son, après vous aurez le... Vous aurez la face.
Le gars qui court, qui nage et tout. Merci beaucoup.